Parole protestante sur RCF Anjou.
Bonjour chers auditeurs, c'est Jean-Pierre qui vous présente cette émission en compagnie de Daniel et Bernard Delépine. Nous sommes tous trois actifs à l'église protestante baptiste d'Angers, dite Communauté du Colombier. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Comme chaque premier dimanche du mois, nous proposons un entretien sur la prière. Aujourd'hui, notre partage se concentrera sur certains des événements entre la scène et le reniement de Pierre. On n'en est pas toujours conscient, mais il s'est passé des choses entre ces deux moments. Qui veut commencer et par quoi ?
Ah ben, Jean-Pierre, moi je veux bien commencer. D'ailleurs, par une question. Savez-vous que Jésus a chanté ?
Non.
On ne l'évoque pas pratiquement jamais, hein, mais, et c'est un peu dommage, mais Matthieu nous apprend qu'après avoir pris la scène, Jésus et ses disciples ont chanté. Sauf erreur, c'est la première fois que l'on mentionne que Jésus chante avec ses disciples. Ces chants sont plus que des chants, hein, Jean-Pierre, ce sont aussi des prières.
En tout cas, c'est vrai que Jésus a chanté, donc c'est étonnant, c'est première nouvelle pour moi. Savons-nous ce qu'il a chanté ?
Oui, probablement les psaumes 115 à 118 et le psaume 136. Ah mais, Jean-Pierre, je lis dans vos yeux que votre interrogation là, hein. Pourquoi ces psaumes et comment sait-on que c'est cela ?
Vous lisez dans mes pensées, Bernard, mais je sens que vous allez nous éclairer.
Oui, mais c'est parce que traditionnellement, ce sont précisément ceux-là que les Juifs chantaient, et chantent toujours d'ailleurs, après le repas de Pâques.
Vous attisez ma curiosité, Bernard. Daniel, pourriez-vous nous dire de quoi parlent ces psaumes ?
Alors, je commence par le 115, qui parle de la gloire qui revient à l'Éternel et que ce n'est qu'en lui qu'il faut nous confier. Le 116 débute par « J'aime l'Éternel », puis parle de l'angoisse devant la mort, de la délivrance, et cette parole si forte à ce moment précis, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qu'il aime. En fait, Jésus chante ce qu'il vit et va vivre dans les heures à suivre. Le 117, c'est le plus court, avec deux versets seulement, et il parle de la bienveillance du Seigneur et de sa vérité. Le 118 est lui aussi très prophétique. Jésus l'a évoqué dans ses enseignements, s'appropriant ce psaume en parlant de la pierre rejetée alors qu'elle est la principale de l'angle, celle qui soutient notre vie et la met d'équerre. Enfin, on connaît peut-être un peu plus le psaume 136 du fait de sa répétition. Vous l'avez certainement déjà lu. Après chaque affirmation, il répétait « car sa miséricorde dure à toujours ». Et puisque nos émissions soulignent à chaque fois l'importance de la prière, comme l'a souligné Bernard, le chant est aussi une forme de prière et les psaumes sont des prières. Et Jésus et ses disciples ont donc prié en chantant.
Vous m'apprenez quelque chose, Daniel. Merci pour cette explication, car si on ne fait pas attention, on passe souvent à côté de ce que l'on pense être des détails, mais qui ont leur importance. Je retiens donc que Jésus a chanté des prières avec ses disciples. Et d'ailleurs, je me demande si Jésus avait vraiment le cœur à chanter à ce moment-là. Mais ça, c'est une autre histoire. Et après, que s'est-il passé ?
Après avoir chanté, ils se rendent au jardin des Oliviers, aussi appelé le jardin de Gethsémané. Il me semble que dans une précédente émission, nous en avions déjà évoqué. Je résume donc sans m'étendre. Hein, Gethsémané signifie le pressoir à huile. Le pressoir évoque l'écrasement de l'olive, donc, puisqu'on était dans le jardin des Oliviers. Mais c'est là, dans ce jardin, que Jésus lui-même est écrasé par l'angoisse, au point que certains de ses vaisseaux sanguins éclatent dans son front.
Vous n'avez pas parlé de la prière de Jésus. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi ?
Non, c'est parce que nous en avons aussi déjà parlé dans une autre émission. Mais pour résumer, là aussi, Jésus sollicite Pierre, Jacques et Jean pour qu'ils veillent en prière avec lui. Eux trois ensemble, pendant que Jésus se trouve seul un peu plus loin. Les disciples fatigués s'endorment. Ils ne prennent pas la mesure de ce qui est en train de se passer. Et à ce moment-là précis, Jésus accepte de mourir pour le pardon de nos péchés à la croix. Après avoir prié, « Ah Seigneur, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non ma volonté mais la tienne », la troisième prière, il accepte la volonté du Père.
Oui, en effet, je me souviens de cette évocation. Daniel, pourriez-vous nous parler du reniement de Pierre ?
Bien sûr, mais il nous faut aussi parler de l'abandon de tous les disciples, Jean-Pierre, même si le reniement de Pierre est le plus connu. Je pense que ce fut un épisode très douloureux pour Jésus et probablement pour les disciples eux-mêmes par la suite. Après une vie commune de 3 ans faite d'amitié, Judas trahit par un baiser, les autres abandonnent Jésus à son sort et s'enfuient, alors que Pierre le renie en affirmant ne pas le connaître. Et Jésus les avait prévenus, « Cette nuit, je serai une occasion de chute pour vous. » Et c'est là que Pierre avait déclaré dans sa fougue et son impulsivité, « Si tous t'abandonnent, moi jamais. » Ajoutant, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. »
Et que pensez-vous de l'attitude de Pierre ?
Ben, Pierre est présomptueux, hein, bute sa personne, blessant d'ailleurs vis-à-vis des autres. « Si tous les autres t'abandonnent, pas moi, Seigneur. » Quel orgueil et quel mépris. En fait, Pierre ne se connaît pas et il ne sait pas ce qui va lui arriver. Et plus que de le dénoncer, on pourrait nous aussi nous poser cette question, et moi et nous, est-ce que nous nous connaissons vraiment ? Mais au passage, je vous fais remarquer que Matthieu rapporte que tous les disciples dirent la même chose. Tous les disciples, donc pas que Pierre.
Et vous en pensez quoi de cette déclaration, Bernard ?
Ah ben franchement, je suis pas trop critique avec Pierre, hein, qui n'a jamais fait de déclaration tonitruante et ne pas les avoir suivis les faits. Hein. Seigneur, je te suivrai toujours. Et hop, un souci ou une non-réponse à la prière et on l'abandonne. Seigneur, si tu m'exauces, je t'irai toujours à l'église. Et hop, hop, trop occupé à autre chose, submergé de travail, la famille, les loisirs, ben l'église n'est plus une priorité. Seigneur, je te donnerai de mes finances. Et voilà que ce n'est plus possible du fait d'un remboursement de prêt. Vous savez, sans vouloir culpabiliser qui que ce soit, hein, nous sommes tous des pierres avec nos déclarations tonitruantes, nos promesses non tenues. Ben, comme lui, nous sommes tous faillibles.
Est-ce qu'on a une idée du revirement de Pierre ? Pourquoi il a renié Jésus ?
Matthieu nous rapporte un détail qui fait réfléchir. Il nous dit que alors qu'on emmène Jésus pour le juger, Pierre le suit de loin. A priori, ça ne paraît pas grand-chose, mais lorsqu'on suit Jésus de loin, c'est qu'on n'est plus à côté de lui. Et on peut tomber facilement quand on n'est plus à ses côtés. Là aussi, c'est un questionnement pour nous. Est-ce que je marche côte à côte avec Jésus ? Suis-je près ou loin de lui ? Si c'est loin, il y a un danger.
Ça n'a l'air de rien, mais c'est pertinent ce que vous nous dites là. Et le coq dans l'histoire alors ? L'emblème sur des églises ?
Ah ben, pour bien comprendre, je vous narre la situation d'après les évangiles. Jésus est arrêté, il est dans la cour du souverain sacrificateur en attente de décision. Dans la cour, il y a des soldats, mais aussi des juifs. Apparemment, dans cette cour, on pouvait y entrer et sortir librement. Puis voilà qu'une première femme dit à Pierre, « Mais toi aussi, tu es l'un d'eux !» Et Pierre le nie. Plus tard, près du feu, une autre personne l'accuse d'être disciple. Et puis Pierre le nie une deuxième fois, et d'ailleurs ce qu'il dit est assez terrible. Hein. « Je le jure, que Dieu me condamne, qu'il me punisse, ce n'est pas vrai, je ne connais pas l'homme dont vous me parlez. » Une heure plus tard, pour la troisième fois, Pierre est mis en cause et renie de plus belle. Et c'est donc à ce moment-là que se réalise la parole de Jésus rapportée par Marc. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi, tu me renies 3 fois et tu dis que tu ne me connais pas. » Ce que je veux souligner par là, c'est que Pierre a eu le temps de se reprendre en main entre chaque reniement. Après la première fois, il aurait pu partir ou se dire « Ben, Pierre, Jésus est ton ami quand même, tu ne peux pas dire que tu ne le connais pas. » En fait, je pense que Pierre a étouffé sa conscience. Cette conscience qu'il a prévenue, mais voilà, il l'a étouffée comme nous l'étouffons parfois aussi.
Parole protestante sur RCF Anjou.
Nous sommes toujours dans l'émission Parole protestante. Nous parlons de ce qui s'est passé entre la scène et le reniement de Pierre. Daniel, à votre avis, quelles sont alors les conséquences de son reniement ?
Alors c'est un peu triste, hein, au deuxième chant du coq, leurs regards se sont croisés. À mon avis, tout était dit dans ses regards. Le regard de tristesse profonde pour Jésus. Et un regard gêné, voire horrifié de Pierre. L'échange de ces regards était suffisant. Nul besoin de paroles. Les textes nous disent que Pierre est sorti de là en pleurant amèrement. Un pleur qui vient du plus profond de lui. Un pleur désespéré et dur à vivre. Comme on le disait tout à l'heure, Pierre, l'orgueilleux, se surestimant, dénigrant les autres, se trouve tout à coup un moins que rien, pire que les autres disciples, qui s'étaient certes enfuis, mais qui ne l'avaient pas renié. D'un seul coup, il était tellement dévalorisé à ses propres yeux, déçu de lui-même. Bon, je suis pas psy, mais je suis sûre qu'il s'en veut terriblement. Il n'arrive pas à se pardonner. Et pour faire le lien avec le thème de notre émission, qui est la prière, vous voyez, Jean-Pierre, impossible après ça d'être en communion avec Jésus. Nous connaissons tous ces moments où nous disons que nous ne pouvons pas revenir vers Jésus ou Dieu le Père comme s'il ne s'était rien passé. Et revenir est très difficile, tant nous sommes culpabilisés et pris de remords aussi. Et on peut imaginer que ce vendredi-là fut très difficile à vivre pour lui.
Vous avez raison, Daniel. Nous connaissons tous ce sentiment de culpabilité. Heureusement que la suite de l'histoire nous montre la réhabilitation de Pierre. D'ailleurs, c'est étonnant que Judas se suicide, mais pas Pierre. Auriez-vous une explication, Bernard ?
Ah bah, on peut pas vraiment être dans la tête de l'un ou de l'autre, hein. Mais il me semble que Judas ne pouvait pas croire au pardon de Jésus, alors que Pierre y croit. Je pense que c'est là toute la différence entre les deux. L'un est désespéré en disant que tout est foutu et que ça ne vaut plus la peine de vivre. Pierre, lui, connaît le pardon de Jésus. Il l'a expérimenté, d'ailleurs certainement Judas aussi, pendant les 3 ans de vie commune avec Jésus. Jésus a certainement eu maintes fois pardonné le comportement et les critiques de ses disciples vis-à-vis de lui. Donc Pierre sait que Jésus lui pardonnera.
Vous n'avez qu'effleuré la trahison de Judas. C'est volontaire.
Ouais, Jean-Pierre, on va pas faire toute une émission sur des événements compliqués et qui nous renvoient à nos propres faiblesses. Hein. Bah, je vous propose d'en laisser pour d'autres émissions, si ça vous va.
Très bien, Bernard. Vous avez raison. Nous n'allons donc plus évoquer les violences faites à Jésus, ni son pseudo-procès. Mais y aurait-il un dernier mot plus léger pour les quelques minutes qui nous restent, Daniel ?
Alors, on peut évoquer le fait que Pierre a essayé de couper la tête à Malchus, le serviteur du grand prêtre.
C'est une plaisanterie.
Non, non, c'est Jean qui nous rapporte ce fait. Je lis, Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui trancha l'oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus.
L'oreille, donc, pas la tête, Daniel.
Vous connaissez quelqu'un qui a d'assez habile pour viser juste une oreille? Attention, dégage tes cheveux, je vise ton oreille. J'invite les auditeurs quand même, sérieusement, à être spectateurs des écrits en s'imaginant les scènes. Pierre veut défendre Jésus, il a une épée et il l'attire, attaque Malchus et lui coupe l'oreille. C'est d'ailleurs assez précis puisqu'on parle de l'oreille droite. Et Pierre, toujours Pierre l'impétueux qui veut défendre humainement Jésus, sur quoi Jésus rétorque qu'il pourrait faire appel à 72 000 anges pour le défendre, ce qu'il ne fait pas. Et il nous arrive aussi parfois, souvent même d'ailleurs, de faire humainement l'œuvre de Dieu, alors que c'est spirituellement qu'il faut la vivre.
Et alors, la suite avec ce serviteur?
Ben, comme le dit le texte lu par Daniel, l'oreille de Malchus est coupée. Luc, qui est médecin, hein, au passage, raconte la suite de ce fait divers et précise que Jésus toucha l'oreille du blessé et le guérit. N'est-ce pas une sacrée leçon pour nous? Jésus, pris à partie par Malchus, manifeste son amour envers lui en guérissant son oreille. Du même coup, il répare la faute de Pierre qui, soit dit en passant, aurait pu avoir de sacrés ennuis. Hein. En fait, Jésus, au travers de cela, nous enseigne à tous, soldats et disciples et nous-mêmes, que celui qui porte en soi la force de Dieu, son amour et sa justice, n'a pas besoin d'user de violence, l'amour prévaut toujours à la violence.
Merci Bernard, vous avez raison, c'est très très juste. Merci donc à vous deux. Il y a beaucoup d'enseignements dans cette émission, c'est donc un peu difficile de choisir deux idées fortes, comme à l'accoutumée. Disons seulement qu'il nous faut marcher à côté de Jésus plutôt que de le suivre de loin, au risque de le renier et de ne plus être en prière avec lui. et que malgré tous nos errements, Jésus nous aime, nous pardonne, nous réhabilite.
Parole protestante sur RCF Anjou.